Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec Ana Maria Ospina de la rédaction en espagnol.
Buenos días.
Vous reviendrez sur l'éclipse visible des Amériques il y a quelques jours. Pour la rédaction portugaise, Ligia Anjos.
Muito boa tarde.
Pour le nouveau spectacle donné à l'Opéra Garnier à Paris. Et Denis Strelkov de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Vous nous parlerez, vous, de cinéma dans la perspective du Festival de Cannes. Avant cela, ce qui fait la une de l'actualité, c'est l'adoption par les eurodéputés d'une réforme de la politique migratoire des 27 visant à contrôler l'arrivée des migrants sur le vieux continent. Ce pacte durcit les contrôles aux frontières et met en place un système de solidarité entre les États membres. Ligia, il a fallu bien des tractations pour en arriver à ce vote.
Tout à fait, Philippe. C'est le résultat de 9 ans de discussions entre socialistes, libéraux et la droite pour adopter la réforme de cette politique migratoire de l'UE. La réforme comporte 2 piliers. Pour le côté fermeté, le filtrage aux frontières de l'Europe pour identifier les migrants qui n'ont pas le droit d'asile ou qui ont très peu de chances de l'obtenir. C'est le cas, par exemple, de ressortissants du Maroc, de la Tunisie ou du Bangladesh. De l'autre côté, solidarité. Le pacte prévoit que tous les pays européens doivent contribuer à la gestion de l'asile et plus seulement la Grèce ou l'Italie, qui sont aux premières loges depuis quelques années. Les demandeurs d'asile seront donc répartis dans les 27 pays. Les États qui refusent de prendre leur part, comme la Pologne ou la Hongrie, devront payer une amende, comme nous explique le chercheur portugais lié à ces questions de migration, Pedro Reis.
Enquanto não resolvermos problemas nos países de origem, enquanto não dermos uma solução de migração legal aos potenciais migrantes,
quel est son commentaire?
Il nous explique alors qu'il y a 2 points de vue. Il faut encore résoudre les problèmes dans les pays d'origine. Sans cela, il y aura toujours des gens qui essayent de traverser les frontières. Ce point n'a pas encore été trouvé de solution pour ce point et c'est le principal problème dénoncé par plusieurs ONG.
Et Pedro Goy souligne également l'importance de ne pas oublier les droits humains universels.
Oui, tout à fait, Philippe. Aucun migrant ne peut arriver en Europe et être détenu simplement parce qu'il est migrant. Ça ne fait aucun sens, étant donné que les Européens défendent avec fierté cet héritage de droits humains. Cette fierté doit être mise en pratique, nous dit-il, à moins de 2 mois des élections européennes, alors que les partis hostiles à l'immigration sont en hausse partout sur le vieux continent. Les demandes d'asile n'ont jamais été si élevées depuis 8 ans. 1,14 million de demandes seulement l'année dernière dans l'Union européenne.
Ana Maria, comment est-ce que vous avez traité cette information sur l'antenne et sur votre site internet en espagnol?
Philippe, d'une part, notre correspondante à Bruxelles nous a expliqué les grandes lignes du pacte. Ce que l'on retient est le filtrage obligatoire préalable à l'entrée d'un migrant dans l'Union européenne. Ces contrôles d'identification et de sécurité peuvent durer jusqu'à 7 jours. À l'issue de ces délais maximum, les personnes sont orientées vers une procédure d'asile classique ou accélérée ou renvoyées dans son pays d'origine ou de transit. À 2 mois des élections européennes, les tensions sont vives, mais les sentiments au sein du Parlement européen et celui de soulagement, même si beaucoup disent que ce n'est pas un accord parfait, le statu quo était bien pire, a conclu la correspondante.
Et vous êtes particulièrement intéressée à la position de l'Italie.
Aussi avec notre correspondant en Italie, parce que le nouveau pacte européen sur les migrations divise la classe politique italienne. Ces pays méditerranéens, confrontés à un afflux constant des migrants par la mer en provenance d'Afrique et appelant à une politique continentale plutôt que nationale, ils divisent les gouvernements de droite de Giorgia Meloni. Pour son parti Fratelli d'Italia, l'accord est un pas en avant, même s'il n'est pas décisif. Pour la Ligue de Matteo Salvini, en revanche, la proposition ne résout pas les problèmes et laisse l'Italie seule. Au milieu se trouve Forza Italia, dont le leader Antonio Tajani souligne qu'il s'agit du meilleur accord possible.
Et pour ce qui est de la Russie maintenant, Denis Strelkov, le pacte migratoire ne concerne pas directement la Russie, mais y est fait allusion puisqu'on trouve la notion d'instrumentalisation des migrants par les pays tiers.
Oui, c'est dans le fait des cas où un pays non membre de l'Union européenne facilite l'arrivée des migrants sur le sol européen avec un but bien précis, faire de la pression politique et provoquer une crise. Tout ça pour pour déstabiliser la situation intérieure et en profiter avec notamment les montées en puissance des partis de l'extrême droite. La Russie n'est pas le seul pays à se servir de l'immigration d'une telle manière. On se souvient notamment d'une crise provoquée par la Biélorussie en 2021 ou encore le conflit migratoire entre le Maroc et l'Espagne. Mais le cas russe est le plus récent. L'automne dernier, la Russie a facilité l'accès des centaines de migrants à sa frontière avec la Finlande pour répondre à la position pro-ukrainienne d'Helsinki. On se souvient tous de ces images des gens venus de l'Afrique ou du Proche-Orient qui ont dû affronter le froid polaire, traverser la frontière, recouvert de la neige à vélo. Avec cet accord, les pays confrontés à une telle situation peuvent avoir de l'aide supplémentaire des pays de l'Union.
Et maintenant, en Russie, qu'est-ce qui est dit sur ce pacte migratoire ?
Dans les médias appartenant à l'État russe, on parle souvent de l'immigration comme un problème pour l'Europe. On imagine que cette crise sans fin qui fragilise les 27, et ce pacte n'est pas qu'une tentative de résoudre une situation qui n'a pas de solution, selon la presse russe. Donc en Russie, on critique beaucoup des mesures proposées, en citant notamment le mécontentement de Viktor Orban. Pour lui, la solidarité n'existe pas.
Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
20 heures, Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Revenons sur cette éclipse solaire qui a captivé des millions de personnes en Amérique du Nord, au Mexique, au Canada, aux États-Unis bien évidemment. Anna Maria Ospina de la rédaction hispanophone, vous êtes intéressée à ce sujet parce que c'est un phénomène rare.
Oui, je vous donne un exemple. La dernière fois que les Mexicains ont pu observer un tel éclipse, c'était il y a 34 ans. À cette occasion, elle a été appelée l'éclipse du siècle, car elle a duré 7 minutes et 2 secondes, ce qui a fait les plus longues enregistrées par la NASA.
Alors rappelez-nous les caractéristiques d'une éclipse solaire totale.
Oui, les éclipses solaires totales se produisent lorsqu'il y a un alignement parfait entre le Soleil, la Lune et la Terre. Ces phénomènes astronomiques ne sont pas très fréquents et se produisent de temps en temps.
Et vous avez donc recueilli des témoignages de personnes émerveillées par cela.
J'aurais voulu les voir, mais c'est mon collègue Carlos Pizarro qui a dû appeler des personnes qui ont profité de ces moments magiques, comme il disait. Ils ont raconté à la radio qu'ils l'ont vécu avec des amis, avec la famille qui l'attendait. Et on va écouter Ángel Ramírez qui a assisté à l'éclipse solaire à Canatlán. C'est une des villes mexicaines. Là-bas, l'éclipse a duré 4 minutes. Et 29 secondes.
Ah, sí, fue un momento mágico increíble porque no te esperas la cantidad de oscuridad que va a haber.
C'était un moment magique, incroyable, et grâce à l'obscurité, nous avons réussi à voir quelques étoiles, quelques planètes, a dit-il. Le phénomène astronomique a également assombri le ciel de l'État de Sinaloa. Carmen Solis, qui travaille au département de tourisme de cette région, a été témoin de cette éclipse solaire.
Et justement, qu'est-ce qu'elle a dit ?
On va l'écouter parce qu'elle était très émue et on l'entend bien dans sa voix.
Ha sido de maravilla, la verdad, se vio muy bien. Se tapó totalmente el sol, se oscureció, se vio de maravilla, la verdad.
C'était magique, c'était vraiment beau. Le soleil était complètement recouvert, il faisait noir, c'était merveilleux, expliquait-elle. À ses côtés, il avait des gens de Hawaï, l'Allemagne, les États-Unis, beaucoup d'étrangers et des Mexicains, bien sûr.
Et l'éclipse a également, je le disais tout à l'heure, été observée aux États-Unis, à Washington, entre autres.
Avec notre correspondant Cristobal Vázquez, et nous avons parlé en direct, il nous a expliqué comment les gens l'ont vécu depuis les National Mall, et parce que lundi, il semblait que c'était un jour férié. On l'écoute.
Desde los techos de los edificios de oficinas, desde las calles, los parques.
Alors lui, c'est son témoignage.
Oui, il raconte que depuis les immeubles, les rues, les parkings, des millions de personnes ont regardé l'éclipse en compagnie de leurs collègues, de leurs amis et de leurs familles. Tout un événement est populaire. Et ce qui nous a rapporté notre collègue à Washington.
Le public fasciné, mais l'éclipse solaire suscite bien évidemment l'intérêt de la communauté scientifique.
Tout à fait, parce que c'est tellement rare que c'est le moment pour mettre à preuve les idées que les scientifiques qu'ils sont, spécialement pour cette éclipse, ils ont voulu faire une récolte des données sur les comportements des animaux et c'est ça ce qu'ils ont fait.
Oui, parce que le comportement des animaux change au moment d'une éclipse.
C'est ça l'idée, c'est ça ce qu'ils pensent et on connaîtra la réponse bientôt. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entendu des coqs et des grillons qui apparemment cessent de chanter, donc ça veut dire qu'ils ne l'ont pas entendu. Il y a des girafes qui s'enfuient au galop, les oiseaux modifient leur vol, autant de phénomènes qui ont déjà été observés par les passés. Et c'est mon collègue Raphaël Morand qui a enregistré un papier, c'est-à-dire qui a parlé de cette information à l'antenne sur les activités scientifiques prévues.
un zoológico en el este de Canadá, ubicado en la trayectoria del eclipse.
Ah, il parle d'un zoo.
Oui, d'un zoo au Québec, il s'appelle Gambie. Il était situé dans la trajectoire de l'éclipse. Il a été surveillé de près par les comportements et des scientifiques. Ils ont observé les comportements des macaques, des ours, des zèbres et des léopards. On connaîtra bientôt les résultats. Les experts prévoient, et je vous invite à mettre cette date dans le prochain rendez-vous de l'éclipse, qui sera observé aux États-Unis en août 2044.
Donc dans une vingtaine d'années. Anna Maria Ospina de la rédaction en espagnol. Quant à la rédaction lusophone, elle nous emmène maintenant à l'Opéra Garnier, à Paris, où est donné Médée, 300 ans après sa création. Ligia Angeaux, vous étiez dans les coulisses lors de la générale de cette tragédie lyrique de Marc-Antoine Charpentier.
Exactement, cette œuvre a été créée en 1693 sur un livret de Thomas Corneille, le cadet de Pierre Corneille. Il fait donc son entrée au répertoire de l'Opéra National de Paris dans une mise en scène de David McVicker et sous la direction de William Christie, pionnier de la redécouverte du répertoire baroque et particulièrement de la musique de Charpentier. Je vous propose d'écouter un extrait sonore du spectacle.
Donc, la Grèce antique qui cède sa place à la Seconde Guerre mondiale et aux troupes alliées, mais les enjeux qui restent identiques, Jason et Médée ont donc trouvé refuge chez Créon, dont la fille Creuse fait battre le cœur de... du héros, c'est bien ça.
Exactement, sur scène, près de 50 chanteurs lyriques, des danseurs, des figurants en costume d'officier, avec des robes du soir ou des smokings. Le char antique est remplacé par un avion de guerre, rose, sur lequel on peut lire l'inscription Cupidon. Pour résumer l'histoire, Médée est la fille du roi du royaume de Colchide. Médée a des pouvoirs magiques. Un jour, elle tombe amoureuse de Jason, dont la mission est de récupérer la toison d'or du père de Médée. Médée trahit son père, tue son frère, s'enfuit avec Jason en Grèce. L'opéra Médée de Charpentier commence ici. La soprano portugaise Anne Viderlight prend les traits de Créuse et nous raconte la suite de cette histoire.
É uma história muito dramática, é verdade. Aqui começamos com a chegada de Jason e Medeia à Grécia.
Que dit-elle?
Elle nous dit qu'il s'agit d'une histoire dramatique. Au début de l'opéra, nous assistons à l'arrivée de Jason et de Médée en Grèce, où ils rencontrent le roi Créon et Créuse. Puis Jason tombe amoureux de la princesse, cette jeune princesse de 16 ans. C'est ici que commence la grande intrigue de l'histoire, car Médée se sent trahie, trompée, enragée. Et elle prépare sa vengeance qui commence par l'empoisonnement d'une robe qui finit par entraîner la mort de la princesse. L'amour les rend complètement aveugles. Créuse meurt, Jason tombe sombre et pour en rajouter une couche tragique, Médée tue ses enfants et s'enfuit. Que détruit davantage, la passion qui détruit ou une vengeance libératrice? On a posé cette question à Anna.
Ah, boa. Não sei, consigo me ver dos dois lados. Se bem que, lá está, como estamos a falar, é muito humano, eu diria que a paixão.
Que diz Anna Vera Leite?
Elle hésite tout d'abord dans sa réponse. Elle finit par répondre que la passion détruit parce que les passionnés finissent par être détruits et Médée, elle aussi, finit par être détruite. Pour sa première à l'Opéra de Paris, Anna Vera Leite prend les traits de Créuse, personnage mythologique, mis en musique par Marc-Antoine Charpentier. Elle a à peine 28 ans, soprano portugaise, elle s'impose et nous raconte comment elle s'est retrouvée dans ce rôle.
Eu confesso que, pronto, já tinha visto esta produção, que é incrível. Não é normal isto acontecer. Eu já tinha visto esta produção exatamente.
Anna avait déjà, elle nous raconte qu'elle l'avait déjà vu cette production il y a 4 ans à Genève. Ça l'a beaucoup touchée. Elle travaille avec les arts florissants, un des ensembles de musique baroque les plus reconnus au monde. Elle a été invitée à passer une audition et s'est préparée sans grands espoirs. Elle nous raconte qu'elle s'est préparée pour un autre rôle, plus petit, que les chanteurs lyriques sont habitués à ce qu'on leur dise non tout le temps. La veille de l'audition, on l'appelle pour lui demander de préparer une autre aria, soi-disant ça pourrait marcher. Puis, 2 jours plus tard, elle reçoit un coup de fil. Le directeur de l'opéra l'a choisie pour le rôle de Créuse. Après le coup de fil, elle se dit « je ne peux pas faire ça tout de suite, c'est trop ». Elle qui rêvait de l'opéra de Paris, mais pense alors avoir besoin d'évoluer encore plus, se sentant hantée par un syndrome de l'imposteur, dit-elle. Puis elle réalise qu'elle vit quelque chose de très important, résultat de nombreuses or, année de travail. Et puis, elle finit par dire qu'elle est heureuse d'être au Palais Garnier. C'est justement au Palais Garnier où Médée de Marc-Antoine Charpentier est joué en ce moment à l'Opéra de Paris jusqu'au 11 mai.
Ligia Angeaus de la rédaction lusophone de Radio France Internationale. Parlons cinéma à présent avec le Festival de Cannes qui aura lieu dans quelques semaines. Hier, la sélection de la 77e édition a été annoncée par Thierry Frémaux, son délégué général. À noter le retour en grande pompe de Francis Ford Coppola. Denis Strelkov, vous avez suivi cette conférence de presse pour la rédaction en russe. Mais avant d'y venir, est-ce qu'en Russie, avec la guerre actuellement et la censure, les films cannois sont toujours accessibles au public?
Une très bonne question, effectivement. Avec la guerre qui dure depuis plus de 2 ans, c'est le moment compliqué pour les distributeurs russes qui ont toujours profité de l'intérêt accru des cinéphiles russes pour le cinéma européen et surtout français. Depuis 2022, deux facteurs ont largement ralenti son développement. Tout d'abord, les sanctions et le refus des grands distributeurs de travailler avec le public russe. Si le titulaire de droits d'auteur pour les films ne veut pas qu'il soit montré dans les cinémas en Russie, du point de vue légal, il est impossible de le faire. C'est le cas pour une grande partie des films qui sortent en Europe, sauf que les cinémas russes, avec un accord silencieux des autorités de l'État, organisent des projections illégales avec des copies obtenues à l'étranger.
Alors, il faut savoir que pour éviter les réclamations, les cinémas organisent parfois ce qu'on appelle des doubles séances.
Oui, en effet, on vous vend un billet pour un court-métrage qui n'a souvent aucun intérêt, mais en bonus, on vous montre gratuitement un film hollywoodien, comme Barbie ou Oppenheimer ou d'autres films. Donc, à aucun moment, le cinéma n'a pas la propriété intellectuelle ou la loi russe, car elle vous vend un billet pour une autre séance. Une pratique qui se prend des juristes, mais qui fonctionne pour l'instant. Autre problème, c'est la censure sur l'écran. Certains films qui sont jugés nocifs pour le public par l'État sont tout simplement pas projetés dans les salles, mais parfois on coupe ou floute tous les fragments qui peuvent être considérés comme illégaux en Russie. Par exemple, quand deux hommes s'embrassent dans Barbie, encore les mots qui font référence à l'homosexualité ou des scènes érotiques, tout ça on peut les couper, et parfois ce sont des longues minutes qui disparaissent dans la version russe.
Alors venons-en maintenant au Festival de Cannes. Les films ont été dévoilés, hein, en grande partie, toujours présentés au public russe.
Oui, c'était le cas l'année dernière. Par exemple, Jean Dubarry, le film d'ouverture du Festival de Cannes, a gagné 4,6 millions de dollars en Russie contre 5,7 en France. Donc c'est le deuxième marché pour le film, ce qui est loin d'être négligeable.
Et pour ce qui est de cette année, donc la sélection 2024, je disais tout à l'heure, elle a été rendue publique et plusieurs films sont très attendus, Denis.
Oui, une sélection est robuste et riche pour Thierry Frémaux. La 77e édition du festival est pacifique, pacifié, joyeux, généreux. L'édition précédente était, selon les organisateurs et la presse, celle de tous les records. Les films choisis par le festival étaient très bien reçus à Oscar et il ne fallait pas décevoir le public cette année. Le jury, présidé par Gertrude Gerwig, réalisatrice de Barbie, doit regarder 19 films. On note le comeback de Francis Ford Coppola. Ça fait 13 ans qu'il était absent du grand écran. Ce film Megapolis, qu'il envisageait pour la première fois il y a 40 ans, parle d'une reconstruction d'une ville américaine comme New York dans le futur après un cataclysme. Certains journalistes américains l'ont déjà vu à Los Angeles. Ils parlent d'une œuvre très spéciale, pharaonique, plein d'expérimentation avec un effort colossal fait par l'équipe, mais compliqué à digérer pour les spectateurs en tout orient avec un budget quand même de 120 millions de dollars.
Et un autre film est très attendu, c'est celui de David Cronenberg et il a pour titre The Shrouds.
Oui, il s'agit d'un body horror avec Vincent Cassel et Diane Kruger. Note également Motel Destino de Karim Azni Aynouz et Bert Andrea Arnaud, un film prometteur et Apprentice d'Ali Abbasi qui va nous montrer l'histoire d'un jeune homme d'affaires Donald Trump dans les années 70 et également une histoire d'un retour à la croisette de Yorgos Lanthimos. Son dernier film, Les pauvres créatures, a été dévoilé au Festival de Venise. Cette fois-ci, le film Kind of Kindness fera son apparition ici à Cannes. Emma Stone, William Defoe et d'autres stars vont incarner 3 stars différents comme 3 films à part. On n'en sait pas plus pour le moment, mais l'expérimentation, c'est toujours dans l'ADN de ce metteur en scène.
Et puis un autre cinéaste qu'on connaît bien à Cannes sera présent cette année, c'est Kirill Serebrennikov, qui est un réalisateur russe qui habite en Europe depuis qu'il a été harcelé par les autorités à Moscou à cause de ses points de vue politiques et artistiques. Vous suivrez ça de très près pour RFI, Denis Relkov, lors de ce Festival de Cannes qui aura lieu dans un mois. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de RFI.